France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
J'ai en tête ce moment très poignant dans la série Adolescence dont nous avons parlé ici même au téléphone sonne. C'est le moment où le père dit on a acheté un ordinateur ou un téléphone donc. Les ados sont dans leur chambre, on est content parce qu'ils ne traînent pas dehors, on les croit à l'abri. En réalité, ils sont en danger de mort sur les réseaux sociaux. Nous ce soir, c'est TikTok qui nous intéresse parce que tous vos enfants sont dessus et parce que la plateforme fait l'objet d'un rapport après une commission d'enquête sur les effets psychologiques sur les mineurs et le rapport est au vitriol, les recommandations très sévères. Le vitriol, ce sont les mots employés. TikTok est une roulette russe, un océan de trash, un réseau hors de contrôle à l'assaut de la jeunesse. On a le sentiment qu'on a déjà entendu ça, non ? On l'a entendu à chaque fois que des parents pleurent leurs enfants, des enfants pris au piège, des vidéos incitatives à répétition, comme le sont les vidéos TikTok portées, multipliées par un algorithme impitoyable, partagé, repartagé, re-repartagé, re-re-repartagé. La commission recommande donc une interdiction de la plateforme avant 15 ans et un couvre-feu pour les 15-18 ans. Les recommandations mettent aussi le nez sous le capot et veulent que le défilement des vidéos ne soit pas infini, qu'on mette une protection d'âge efficace, que l'onglet pour toi disparaisse. TikTok évidemment se défend en disant que sa plateforme est pleine des protections nécessaires, mais vous, les parents, est-ce que vous savez ce que voient vos enfants ? Est-ce que vous les connaissez, ces contenus ? Est-ce que vous savez comment il marche, cet algorithme infernal ? Toutes les plateformes ont des algos, mais les miennes, par exemple, m'envoient des vidéos de Labrador. Vous imaginez bien que vos enfants n'ont pas du tout des vidéos de Labrador sur les leurs. Comment expliquez-vous à vos ados ? Peut-être que c'est eux qui vous racontent et qui vous expliquent. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous dites « montre-moi ce que tu vois » ? Si on ne peut pas compter sur les plateformes pour bouger, comment compter sur nous-mêmes ? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pascal, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, bonsoir. Pascal.
Eh bien, je voulais témoigner ce soir parce que franchement, ça illustre parfaitement le sujet. Je rentrais du travail tout à l'heure. J'étais pas vraiment informée après une journée de travail sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est passé quand même un drame. Et qui m'informe ? Mes enfants. Ils ont déjà eu l'info, ils ont déjà vu les images. Et là, c'est vraiment la question que je leur ai posée. Montre-moi, montrez-moi ce que vous avez vu. Et moi, personnellement, j'ai été choquée.
Mmh. Parce que c'est les images non censurées, hein. elles sont terrifiantes.
Mais... Exactement. Mmh. Et là, je les ai regardées. Ils m'ont regardée presque. Je pense qu'ils étaient étonnés de me voir assez choquée. Et je leur ai dit, mais je pense que vous avez pas, vous réalisez pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est parce que voilà, il y a encore une certaine naïveté ou je sais pas, j'ai pas les termes, mais en tout cas là, moi, c'est là où ça m'échappe et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut là, je peux témoigner. L'exemple était tout à l'heure
ils ont,
après le travail.
11 et 14 ans, vos enfants, Pascal, donc oui. Ils sont au-dessous de 15 ans. Quand vous entendez, il faut interdire TikTok aux moins de 15 ans. Est-ce que vous vous dites objectivement, mais comment voulez-vous qu'on fasse?
En clair, moi je pense que sincèrement, moi je suis pour, mais après je vois pas, pourtant je suis déjà une maman attentive dans le sens où je vais limiter le temps d'accès sur le téléphone et finalement ça m'échappe complètement. Quoi. Je veux dire là, il y a des images terrifiantes et pourtant je suis quand même quelqu'un, je fais attention et...
Merci beaucoup Pascal, parce que vraiment votre témoignage est précieux et nous parle vraiment de l'instant, de maintenant, en plus de ce qui s'est passé ce soir quand vous êtes rentrée du boulot. Merci vraiment pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table. Il y a Jean Catan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-auteur de Nous sommes les réseaux sociaux, vous êtes porteur de l'initiative Café IA, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique aussi. Il y a Isabelle Roche qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Horizon, Madame Roche, de Moselle, et vous êtes l'une des vice-présidentes du fameux rapport qui nous occupe et dont je parlais en introduction. Et puis Sophie Géhel est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Vous avez écrit « L'adolescence au cœur de l'économie numérique, travail émotionnel et risques sociaux ». Et on est ravis aussi de vous entendre. Je vais me tourner vers vous, Jean Catan, d'abord, mais je pense que pour démarrer, vous aurez tous et toutes la même question. Elle a raison, Pascal. Si on lui dit qu'il faut interdire jusqu'à 15 ans, forcément sa réponse, mais comment voulez-vous que je fasse ? Est-ce qu'elle a vraiment la main sur cette interdiction ?
Non, tout seul, on pourra toujours dire oui, il y a le contrôle parental, oui, il est possible d'eux, mais en fait, c'est un problème collectif au bout d'un moment. Et c'est ça que le rapport aussi met en exergue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'attache au comportement individuel, oui, c'est important. C'est important de créer ces espaces d'échange, je reviens là-dessus aussi. Comme en témoignait Pascal, c'est le plus fondamental peut-être à notre échelle. Maintenant, il y a une échelle collective qui est fondamentale, c'est d'agir sur la structure et de se dire que c'est notre rôle aussi, en tant qu'autorité publique et autres, d'agir sur ces réseaux pour empêcher l'accès aux contenus les plus délétères.
On y reviendra et ensemble évidemment, Jean Catan, savoir jusqu'à quel point on peut avoir la main en fait. Parce que ce qu'il y a dans les recommandations, Isabelle Roche, c'est vraiment de mettre la main sous le capot, quoi. Enfin, notamment de modifier l'algorithme pour le fameux onglet pour toi, voire enlever le fameux onglet pour toi qui est algorithmé vraiment pour l'ado qu'il regarde. C'est beaucoup de choses de ce type-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut obliger réellement une plateforme comme TikTok d'aller modifier ce qu'il a sous le capot ?
Ah oui, c'est impératif et ça se fera au niveau national mais bien sûr au niveau européen. Et vous soulignez justement le côté addictogène de l'algorithme de TikTok qui est quand même très très particulier puisqu'il a ceci de particulier par rapport aux autres, c'est qu'il entraîne les jeunes à rester devant des contenus même s'ils ne sont pas au départ, s'ils ne les aiment pas. Ce n'est pas le like qui va faire qu'ils vont rester, c'est le fait, la sidération, c'est le fait du temps passé.
C'est le fait qu'on s'y arrête une poignée de secondes. Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est même pas une poignée de secondes d'ailleurs, c'est moins d'une seconde. Si on s'arrête un tout petit peu, paf, on est dans l'algorithme.
Voilà, on est repéré et ça va aller crescendo avec des contenus de plus en plus problématiques. Et ces contenus, on le sait, vont favoriser le passage à l'acte. C'est ça, en fait, une des grosses problématiques de TikTok par rapport à d'autres réseaux sociaux. C'est ce côté de la promotion de l'anorexie, de la promotion du suicide, qui, je le rappelle, est un délit, et avec... une facilitation du passage à l'acte. Donc c'est ce qui a été pointé et c'est ce qu'on a constaté durant cette commission d'enquête où on a eu des témoignages très 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 durs de la part d'utilisateurs mais aussi de la part de professionnels.
Absolument, et ces témoignages ils seront dans le tome 2 si je puis dire qui est extrêmement épais, mais c'est important effectivement qu'on puisse les lire et qu'on sache. Sophie Géhel, ce que vous avez étudié vous, et vraiment, ça nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en fait pour un ado et même un enfant quand il le voit, ce contenu en fait. Et donc, vous avez séparé tout ça. Est-ce que c'est une adhésion ? Est-ce que c'est un choc ? Est-ce que c'est une indifférence ? Est-ce qu'ils savent l'éviter ? Est-ce qu'ils sont autonomes face à ce qu'ils voient et qu'ils sont capables donc du coup d'avoir un minimum de recul ? Comment ça se définit ça ? Comment ça se définit quand on voit, par exemple, là, en trollant cet Américain qui a été assassiné dans l'Utah, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant pour que ça ne devienne pas quelque chose d'obsessionnel pour lui, en fait ? Est-ce qu'il a moyen d'y échapper, en fait ?
Alors, ce que m'a appris mon enquête sur la réception des images violentes, sexuelles ou haineuses, c'est que cette réception, elle est diverse. Et donc, effectivement, il y en a qui vont être complètement scotchés, qui vont revoir la séquence, qui vont du coup en revoir de plus en plus. Alors, c'est vrai que sur TikTok, c'est particulièrement fort, mais ça peut être aussi sur d'autres plateformes, hein, notamment sur X ou sur Instagram. Et puis, il y en a d'autres qui vont essayer de... Voilà, l'indifférence, essayer de passer en disant bah, « je me mets à distance, je regarde pas, enfin, j'y pense pas. »
Mais c'est pas trop tard, à partir du moment où ils se sont arrêtés, même si leur réaction, c'est « moi, j'ai une réaction indifférente », de toute façon, ils se sont arrêtés, donc l'algorithme va lui renvoyer des équivalences, non ?
Oui, alors ensuite, les individus peuvent quand même agir là-dessus, et puis la deuxième fois, aller plus vite, parce qu'il y a quand même... Alors, ça dépend de l'âge, mais vous avez quand même des adolescents, moi c'était plutôt des 15-16 ans, qui disent « j'ai pas envie de regarder ça », et qui vont l'éviter. Le problème, c'est ceux pour qui ça va réveiller des vulnérabilités, et qui vont être comme ça abreuvés d'images particulièrement angoissantes. Mais ce que je voulais dire, juste en répondant, enfin revenant sur le témoignage de Pascal tout à l'heure, c'est que précisément ce qu'il faut, c'est arriver à en parler, manifester sa propre émotion, c'est assez important, c'est-à-dire créer une communauté d'émotions avec les jeunes et avec les enfants en expliquant ce qui est choquant. Et ce qui est choquant, c'est l'atteinte à la dignité humaine que représente le fait de filmer la mort, par exemple. En tout cas, dans nos sociétés, dans notre société, filmer la mort et en faire un spectacle, c'est une atteinte à la dignité humaine.
Dans les recommandations, Jean Caton, il y a aussi notamment d'interdire le défilement infini, parce que le défilement, effectivement, il peut être perpétuel. Donc ça veut dire l'arrêter parfois, juste pour obliger en fait à cliquer en disant si tu veux t'arrêter, ça veut dire si tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter là en fait. Mais en même temps que j'écoutais Sophie Giel, je me disais si sur chaque vidéo, pour en avoir une autre, il y avait ne serait-ce que ça, un pouce en l'air ou un pouce en bas, donc quelque chose qui disait qui nous fait dire à nous non je veux plus, non je veux plus, non je veux plus, ça finirait quand même par modifier les choses. Est-ce qu'on peut obliger TikTok à jouer à ça, par exemple ?
Oui, tout à fait, dans la lignée de ce qui a été dit, tout à fait. Et au niveau européen, c'est vraiment le sens que doit impulser aussi la Commission européenne à son action. Vous évoquez quelques propositions, par exemple, qui sont techniques et qui peuvent paraître évidentes quand on les dit, mais il y a quelque chose d'évident dont on se rend moins compte au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas le choix sur la configuration du système en lui-même du réseau social.
Et on a entendu la réponse de TikTok aujourd'hui même, qui trouve que les précautions sont prises, qu'il n'y a aucun souci.
Ils en font même un objet de campagne publicitaire, exactement, le choix de l'utilisateur, ce qui est complètement fallacieux et ce qui est bien mis en avant dans le rapport aussi.
Sophie est avec nous, bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
Et vous allez pouvoir poursuivre notre discussion, on vous écoute.
Alors, je suis désolée, j'ai pas écouté ce que disait l'intervenant avant, mais moi, je voulais témoigner que de mon grand soulagement qu'il y ait enfin des propositions d'encadrement à l'usage des réseaux sociaux auprès de nos enfants, parce qu'on a beaucoup lutté avec mon mari auprès de nos trois enfants, qui sont maintenant un peu plus grands, et que ça a été très, très compliqué. Ça a été très compliqué au sein de la famille. On se sentait un peu isolés. L'aîné a 23 ans, du coup, notre lutte date un petit peu, et le dernier a 16 ans. Mais en tout cas, on a pas lâché le morceau. On était convaincus que les réseaux sociaux ne leur apporteraient rien de bon, et on a essayé de retarder le plus tard possible leurs usages.
Ça veut dire que celui qui a 16 ans, par exemple, il n'y est pas encore, Sophie ?
Si, il a Instagram depuis l'année dernière. Pardon, j'ai cité un réseau, mais...
Oui, c'est pas grave, oui.
Mais du coup, il l'a depuis la troisième.
Et vous dites, c'est intéressant, vous dites, vous avez beaucoup lutté, donc on voit bien que ça a été des discussions avec vos enfants, mais aussi avec vos proches, en fait. Et est-ce que c'était genre, mais fous-leur la paix, ou de toute façon, ça sert à rien, ils sont dessus, c'était quoi la réponse de l'entourage ?
Alors, c'est pas tellement avec les proches, c'est qu'en fait, nous, on était un petit peu isolés par rapport à l'entourage de tous leurs copains de collège. Et on se rendait compte qu'en fait, on faisait partie des très rares parents qui imposaient que le téléphone à 19h, il est posé, que c'est une heure par jour à tel âge, que c'est 2 heures à tel âge, et même jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. De toute façon, nous, on a continué à les questionner. Est-ce que tu as regardé ton temps de téléphone? Et c'est vrai qu'on s'est sentis isolés parce que nous sommes on utilise très peu les réseaux sociaux. Mon mari, pas du tout, moi, un peu. Et en fait, on a été peut-être incompris.
Isabelle Roche, merci beaucoup Sophie pour votre témoignage. Sophie, merci vraiment. Isabelle Roche, je trouve ça intéressant quand Sophie nous dit enfin, peut-être que je peux m'appuyer sur quelque chose et expliquer à mes enfants pourquoi c'est ce que je leur demande, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi il faut poser le téléphone. Regardez, il y a un rapport qui le dit. Peut-être qu'il faut le mettre entre toutes les mains, ce rapport, finalement, y compris dans les écoles.
Oui, moi je suis très très contente que ce rapport fasse autant de bruit aujourd'hui. Il y a déjà 2 ans, on avait eu une loi qui interdisait les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette loi est difficile à appliquer, on voit que c'est au niveau européen qu'il faut le faire. Donc il est vraiment important qu'on ait cette prise de conscience, parce qu'effectivement ça peut être très très délétère sur nos enfants de façon générale. Donc l'interdiction aux moins de 15 ans est une bonne chose. Maintenant, il va falloir qu'on aille aussi beaucoup plus loin. Et la résolution numéro 10 est très importante, c'est de savoir comment on va pouvoir responsabiliser les plateformes, c'est-à-dire comment on va pouvoir leur faire passer de statut d'éditeur de statut d'hébergeur à statut d'éditeur, puisque c'est aussi
C'est ce
la
qui leur donnera une responsabilité, et donc qui les fait réfléchir en cas de tribunal, évidemment.
Mais oui, tout à fait, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'elles veulent, c'est, et c'est dit dans le rapport, c'est faire de l'argent. Donc, elles ne sont pas philanthropes, elles ne veulent pas le bien de nos enfants. Mmh. Elles, ce qu'elles veulent, c'est maximiser le temps d'écran de nos enfants pour faire un maximum de profit. Donc, à un moment, c'est ce qui est, les contenus qui sont déversés, elles n'en ont strictement rien à faire. Mmh. On voit que même les contenus délictuels sont, continuent d'être mis en ligne. Donc, il est vraiment très, très important qu'on puisse aller vers cela pour que justement on ait un outil fort, parce que c'est extrêmement important la sensibilisation des parents, la sensibilisation de la communauté éducative, et aujourd'hui cette émission y participe, et vraiment je vous remercie de la faire, parce que on lutte à l'Assemblée nationale par rapport à cela pour montrer cela, mais maintenant il est aussi important que on ait les plateformes qui soient conscients, qui soient responsables des contenus qu'elles puissent faire voir à nos enfants, et pas qu'à nos enfants d'ailleurs.
Bonsoir Laure Boutron-Marmion.
Bonjour.
C'est là que vous intervenez, parce que vous êtes avocate, vous êtes fondatrice du collectif Algos Victima. Pour vous, évidemment, ce serait la clé. Vous avez des familles endeuillées parmi vos clients. Vous essayez d'attaquer notamment TikTok en démontrant leur responsabilité. S'ils deviennent éditeurs au lieu d'être simples hébergeurs, bien sûr que ça vous facilite la tâche.
Bien sûr, mais comme je le dis depuis 2 ans et depuis qu'on a déposé ce recours collectif, ils ne pourront pas se dérober. Effectivement, ils tenteront de nous resservir cette vieille soupe, mais qui commence à être bien tiède aujourd'hui, de l'hébergeur de contenu, en considérant que comme ce n'est pas le leur, ils n'ont pas à avoir de responsabilité dessus. Mais on le voit bien, on voit bien que maintenant le discours n'est plus tenable, dans la mesure où l'outil qu'ils en font est un produit en soi. Ils favorisent certains contenus plutôt que d'autres, et cet algorithme, ils en ont la paternité. Et donc, nous, dans notre action, donc là, on a actionné la justice française en novembre dernier, et il y aura une audience d'ici l'été 2026, eh bien, nous avons tout simplement, nous nous sommes prévalus des principes essentiels de responsabilité civile, qui veut qu'aujourd'hui, on a des citoyens français qui souffrent dans leur chair, et donc, TikTok ayant une responsabilité directe sur ce qu'il se passe dans ses foyers, eh bien, ils en doivent réparation.
Est-ce que vous avez le sentiment, Laure Boutron-Marmion, parce que c'est fou, j'ai l'impression qu'on entend des histoires comme celle-là, principalement dans notre pays, un peu ailleurs, mais finalement pas tant que ça. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être un exemple, ou est-ce qu'on est un peu tout seul dans notre village, nous, en France ?
Je vous confirme que c'est tous les foyers européens et mondiaux qui sont concernés. Simplement, aujourd'hui, il y a eu effectivement cette initiative des Français qui, donc les premiers, c'est nous, hein, c'est moi avec la famille de Marie, donc Stéphanie et Charles, qui déjà avons déposé plainte contre TikTok en 2023 pour provocation au suicide, et puis maintenant ce recours collectif, si bien que les autres pays. Moi, j'ai des contacts réguliers avec des confrères dans d'autres pays européens. Mmh. Il est bien évident qu'ils regardent et qu'ils sont attentifs à ce qui se passe en France.
Jean Catan, c'est intéressant ça, parce que il y a eu, je me souviens, c'était des paroles d'Emmanuel Macron sur les écrans d'une manière générale, pas avant 15 ans. Il faut une directive européenne, mais s'ils n'y vont pas, nous irons tout seuls. On dit la même chose dans ce rapport sur TikTok, pas avant 15 ans. Il faut que ce soit européen pour que ça ait du sens. Mais si l'Europe n'y va pas, on y va tout seul. Pardon, mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller tout seul, finalement ? Et est-ce que c'est aussi compliqué d'y aller tout seul si on veut faire un coup autour de TikTok, par exemple ?
Non, la France l'a fait d'ailleurs. Elle se l'est suffisamment fait reprocher par la Commission européenne au cours des dernières années. Et il faut bien comprendre qu'il y a un rapport de force qui se joue, qui peut être fructueux, puisqu'aujourd'hui, la France fait office d'éclaireuse au niveau européen, elle le fait au niveau législatif, au niveau judiciaire, comme cela vient d'être dit. Et c'est très important, en fait, de garder ce rôle en Europe et de continuer à penser notre action collective au niveau européen, tout en étant moteur là-dessus. Donc ça veut dire faire preuve d'innovation, ça veut dire porter des arguments forts. Je me joindrai aux arguments qui ont été portés là, en disant il y a d'autres réseaux sociaux, même que TikTok, qui nous disent ce que nous ne recommandons pas, vous ne le voyez pas. Donc à partir de là, le statut d'hébergeur qui déresponsabilise la plateforme est un leurre, une hypocrisie totale, puisque comme c'est très bien dit dans le rapport aussi, pour être payé à la vue, en gros, faut être vu.
Bien
donc,
sûr.
Faut être poussé par la plateforme. Mmh. Donc, nécessairement, il détermine une forme de ligne éditoriale qui est ici plurielle vis-à-vis des utilisateurs. Donc, en effet, cet argument ne tiendra pas et on a hâte que la justice se prononce en ce sens.
Mais on est d'accord pour dire que si on est, nous, seuls à demander à TikTok, par exemple, d'arrêter le scrollage infini ou de modifier l'algorithme pour l'onglet pour toi, voire de l'enlever. Si nous, on dit ça, on tape un peu probablement une épée dans l'eau. Mais s'il y a 27 pays qui le disent en même temps, ça se passe différemment. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a des réticences en Europe et de vraies réticences de certains pays qui ne veulent pas qu'on y touche ?
Énorme. Le pluralisme algorithmique, par exemple, qui est porté dans les états généraux de l'information, comme l'a rappelé Bruno Patineau dans le cadre de la commission, qui est porté par la commission Enfant-Écran, qui est porté par les travaux du Conseil national du numérique, par des professeurs comme Célia Zolinski depuis des années en France, on a réussi à faire une alliance au niveau européen et même avec des Américains, et notamment l'université de Georgetown. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Maintenant, il y a un blocage au niveau de la commission d'agir sur la structure des réseaux sociaux. Ils refusent ça. Ils restent dans un mythe où, en fait, on va pouvoir agir sur les comportements, sur la modération, etc. Non, il faut assumer un rôle où les autorités publiques participent à la construction de services qui sont aujourd'hui des services d'information, des services de distraction, certes, mais aussi beaucoup des services qui nous permettent de faire société.
Sophie Géhel, professeure en sciences de l'information et de la communication, vous voulez intervenir et je vous en prie.
Oui, oui, je voulais intervenir pour dire que autant certaines dispositions me sembleraient négociables, en tout cas, ce pourrait être des points de départ, c'est-à-dire dire pour les moins de 15 ans ou pour les 13-15 ans, puisque, pour une certaine tranche d'âge, essayons de proposer un design qui soit adapté, renforcer le pluralisme. Il y a des enjeux politiques aussi, de pluralisme politique sur les plateformes, qui sont extrêmement graves aussi. Autant on pourrait, par rapport aux mineurs, si vous voulez, aux moins de 18 ans, avoir du poids, je pense, dans les recommandations sur le design de la plateforme, le scrolling, etc. Autant si on le demande d'une façon complètement large pour tous les publics, je pense que ça sera pas entendu, parce que l'enjeu, moi je suis d'accord avec la dimension, enfin avec le statut d'éditeur. C'est vrai que ce sont des plateformes qui ont un rôle d'éditorialisation évident avec leurs algorithmes, etc. Mais ça vient entrer en conflit avec le principe de liberté de communication et d'expression. Donc, il faut créer un statut intermédiaire qui responsabilise davantage les plateformes et envisager, mais ça c'est quand même en principe dans les tuyaux avec la Commission européenne, d'avoir des exigences bien plus grandes par rapport aux personnes, aux usagers qui sont repérés comme étant... jeunes, enfin moins, moins de 18
alors, dis donc,
ans.
Créer un statut intermédiaire, on n'est pas sorti des ronces, hein, c'est déjà tellement compliqué, ça risque d'être un peu compliqué. Je voudrais qu'on écoute Olivier, qui est à La Rochelle. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je vous appelais tout simplement pour témoigner un peu extraordinaire. Le jour des 15 ans de notre fils, donc le jour de son anniversaire, on a reçu de Google un email qui nous indiquait que désormais notre fils pouvait modifier ses paramètres sur son application Family Link, auquel il a accès en tant que membre de la famille. Donc Family Link, c'est le dispositif de contrôle parental. Et donc nous recevions ce mail et en cliquant sur le petit lien foire aux questions à l'usage des familles, en fait on s'apercevait qu'il avait la possibilité de supprimer le contrôle parental au jour de ses 15 ans. Et évidemment, c'est ce qu'il a fait tout de suite, parce que c'était un sujet de conflit dans la famille.
Ben voyons, ouais.
Et voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas su, mais cette majorité numérique d'ouvre des droits aux enfants, et nous, en tant que parents, c'est absolument impossible de contrôler quoi que ce soit derrière. Alors, après 15 ans, effectivement, c'est plus avant 15 ans, mais c'est pas encore 18 ans. Et quand on parle d'addiction, tout ça pose problème, d'autant plus que c'est un âge où on leur demande beaucoup scolairement, quand il faut, il faut se concentrer, il faut travailler. Et toutes les attractions des réseaux sociaux, elles sont facilitées par cette absence de contrôle, parce que le temps défile.
Merci beaucoup, Olivier. Merci vraiment. Isabelle Roche, ça nous montre le chemin qui reste à parcourir, parce que Google a cet outil-là qui active ou désactive, effectivement, la majorité numérique, le contrôle parental à partir de 15 ans, sur les réseaux sociaux à la TikTok, il n'y a même pas ça. Donc il faut compter sur nous-mêmes, sur la famille, sur l'entourage, c'est tellement compliqué.
Tout à fait, c'est bien pour ça que ce rapport préconise un certain nombre de mesures qui certes renvoient à responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective, que ce soit dans l'apprentissage et que ce soit vers TikTok. Et je voulais rappeler quand même que l'Europe, à partir de 2026, va se doter d'un prototype pour la vérification de l'âge et que ça va être expérimenté en France notamment. Et quand vous parliez en disant d'autres pays ne sont pas concernés, si on voit qu'en fait c'est à l'échelle planétaire que cette problématique existe, et notamment l'Australie qui prend des mesures d'âge.
Qui a été la première, qui n'est pas en Europe, mais qui a été la première
à prendre des mesures d'âge. C'est pour ça que je disais planétaire. On est bien. Donc on voit que c'est si on ne réagit pas collectivement vis-à-vis de la plateforme, nous aurons un problème. Donc il est urgentissime et de prendre ces mesures et de rester responsable et de voir aussi de vous preniez le dialogue avec nos enfants, oui, de savoir comment ça se passe, ce qu'ils regardent, toute cette éducation à l'information est fondamentale, parce que si on ne l'a pas, cet esprit critique, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ensuite, d'aider les parents, les enfants, par des mesures restrictives, tant que nous n'arriverons pas à faire en sorte que TikTok soit un statut d'éditeur et pas d'hébergeur.
Écoutez ce message tous de Charlotte que je trouve extrêmement représentatif et édifiant. Charlotte nous dit ceci, elle nous dit « Mes enfants, 15 et 17 ans, sont tombés dans les contenus d'Andrew Tate. » Andrew Tate, c'est un affreux masculiniste. « Quand ils étaient trop jeunes pour les comprendre et les mettre en contexte, pendant des années, nous avons été renvoyés à notre propre échec parental. Après tout, nous dit-elle, si nos enfants regardent ça, ben c'est peut-être un peu de notre faute. Il nous a fallu des années pour déconstruire ce discours hyper toxique. Et honnêtement, je ne suis pas certaine que nous y soyons arrivés. » J'aimerais bien votre avis sur ce message, Sophie Géhel.
Oui, il est contradictoire avec une observation quand même plus générale qui est que le rôle des parents est quand même déterminant, en fait.
Dans
l'interprétation des images et dans les choix. Alors ensuite, il peut y avoir aussi une provocation, c'est-à-dire on va vers le masculiniste parce que pour s'opposer à l'adolescence avec des parents féministes, par exemple. Mais globalement, je crois qu'il faut quand même rassurer les parents. Le fait de parler avec leurs enfants, d'expliciter leurs choix, de ne pas hésiter à critiquer des messages qui peuvent être au contraire extrêmement partagés avec le groupe de pères, c'est déterminant en fait pour construire l'esprit critique, la capacité de l'enfant à entendre plusieurs points de vue et à se construire par rapport à ça.
Après, Jean-Catan, je sais que je dois vous laisser partir. Moi, ce qui m'a frappé dans ce message, c'est l'échec en tant que parent, en fait. C'est le sentiment que le réseau social a été plus fort que l'éducation. C'est ça que ça veut dire, en fait. Que TikTok, en l'occurrence, a été plus fort.
Mais c'est très dur à penser, à verbaliser, et c'est très courageux de le faire aussi, et de se dire que peut-être on a des ressorts qui sont de l'ordre du social, du collectif. Il y a l'infrastructure technologique et il y a aussi l'infrastructure sociale. Quand vous allez dans une rue aux enfants, organisée par certains cafés associatifs qui s'occupent des enfants, vous vous rendez compte que, en réalité, dans ces espaces-là, il n'y a pas un téléphone de sortie. Que ce sont aussi des espaces d'échange où d'autres relations, d'autres référentiels peuvent être noués et peuvent aussi décharger un petit peu les parents de cette charge et de cette culpabilité qui est très difficile à vivre.
Voici Eric qui est à Paris. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
On vous écoute, soyez le bienvenu Eric.
Oui, bonsoir. Écoutez, merci de prendre mon appel. Je vais être un petit peu provocateur.
Je vous en prie.
Je trouve que ce rapport, évidemment, est très utile, mais j'ai l'impression qu'il enfonce une porte ouverte. Parce qu'il suffit de scroller justement sur tous les réseaux sociaux pour se rendre compte du danger que ça représente. Et je trouve que commencer à intervenir quand un outil comme TikTok, enfin un réseau social comme TikTok existe déjà depuis plusieurs années, ça a fait énormément de dégâts. Et on oublie peut-être le prochain TikTok qui va arriver dans un mois, deux mois, six mois, un an, j'en sais rien, et qui va commettre encore plus de dégâts. Et qu'on mettra plusieurs années à arrêter, à bloquer.
Merci.
Je travaille dans le secteur du médical et j'ai aussi travaillé dans des moteurs de recherche. Et la combinaison de ces deux expériences me fait dire que je ne comprends pas pourquoi, dans le secteur du numérique, on n'a pas l'équivalent d'une autorisation de mise sur le marché, car c'est un produit dangereux, potentiellement dangereux, et on est capable de regarder la dangerosité de ces produits avant même qu'ils soient mis sur le marché. Merci. Et je pense que les pouvoirs publics ont ce pouvoir-là.
Merci Eric, c'est intéressant Isabelle Roche ce que dit Eric. D'abord sur cette première chose, on s'est probablement laissé dépasser quand on les a vus arriver, on n'a pas compris ce que ça pouvait être un réseau social de ce type-là. Est-ce que s'il y en avait un nouveau, on serait meilleur Isabelle Roche? Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Pas sûr, ouais. Parce que dans ce que j'entendais et même dans le précédent témoignage, c'est que même si moi je vais sur mon TikTok, je vais sur mon Instagram, je ne verrai jamais la
exactement,
même chose que mes
enfants. Exactement, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vois des labradors, donc
tout à fait. Donc, je ne vais pas vous dire ce que je vois, mais je ne vois pas de contenu,
contenu très violent, effectivement. Après, là où
Pardon. Et donc c'est ça aussi, c'est que ce qui est très important, ça a été dit, c'est le dialogue. Mais encore faut-il avoir créé ces espaces de dialogue, avoir la capacité de le faire, avoir la capacité de savoir ce qui se passe sur TikTok ou sur d'autres réseaux, mais notamment sur TikTok. Et c'est pour ça que ce rapport, il est très important. C'est pour ça que ces 178 auditions ont été importantes. C'est que votre auditeur disait, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Oui, parce qu'ils travaillent dans ce domaine-là. Mais pour un grand nombre de parents, pour certains, ça a été des découvertes, ça a été des chocs. Donc, alors, quand il est vraiment très important, cette prise de conscience.
Ouais. Alors mais quand même, Isabelle Roche, ce que j'ai entendu moi dans le témoignage d'Éric, c'est aussi de dire c'est pas la première fois qu'on dit tout ça. Et pour le coup, c'est vrai. Oui. C'est pas la première fois qu'on dit tout ça. Le sens de ma question, c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un rapport comme le vôtre aura plus de poids et permettra de ne pas enfoncer des portes ouvertes, mais d'enfoncer des clous, là, pour le coup, et que des choses changent, notamment sur l'application.
Ben c'est de bien montrer que déjà on a cranté au niveau européen un certain nombre de choses, notamment je vous disais l'expérimentation de la vérification de l'âge à partir de 2026 qui sera expérimentée en France, puisque nous avons une loi, la loi Marcangeli, qui instaure cette majorité numérique à 15 ans. Donc on voit qu'on a cranté un certain nombre de choses. C'est la demande aussi de ce comité d'experts pour avoir cette capacité à faire changer les hébergeurs en éditeurs. Donc on voit bien que l'on progresse dans cette problématique. Maintenant, il faudra encore du temps, mais on a aussi progressé dans l'éducation au numérique, dans l'éducation aux médias. Donc on est un peu mieux armé qu'avant, mais il faut garder la vigilance, il faut être de plus en plus vigilant. Ça c'est évident, puisque c'est une guerre contre des plateformes, comme je le disais, qui veulent faire de l'argent. Donc on a cette bataille à mener, et donc on doit être vigilant en permanence.
Sophie Gilles, je vous entendais trépigner de l'autre côté, vous avez le mot de la fin rapidement si vous le voulez bien.
Oui, je voulais dire à propos du est-ce qu'on a un nouveau réseau social qui pourrait être pire, etc.
Qu'est-ce qu'on a appris en fait?
On l'a déjà.
Ah ouais.
On a déjà ChatGPT. Je pense que c'est parce qu'on parle d'IA. Vous voyez, selon les espaces ou selon les entreprises, on va les considérer, on va trouver que les IA génératives c'est extraordinaire, alors que les algorithmes qui structurent le fil algorithmique de TikTok ou d'autres, de Snapchat, d'Instagram, etc. Ce sont aussi des IA.
Et qui ont déjà fait des dégâts par ailleurs, avec une durée de vie finalement beaucoup moins importante que celle de TikTok. Il y a déjà des morts, quoi. J'entends ce que vous dites.
Voilà. Et je pense que, si vous voulez, ce qu'on met en cause là, c'est la modération de TikTok, la modération de ces plateformes qui est vraiment très, très mauvaise. Le rapport souligne qu'il y a insuffisamment de modérateurs francophones. Bon, c'est une bataille depuis plusieurs années, notamment menée par l'ARCOM ou par. Mais bon, le reste est fait par des IA. Et moi, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à la manière dont nous avons aujourd'hui de nous tourner et de tourner les enfants aussi et les adolescents très jeunes sur des grandes plateformes comme ChatGPT, qui sont certes différentes de TikTok, mais qui vont poser des problèmes majeurs aussi. Parce que les IA ne sont pas capables de modérer de façon correcte, parce que...
Il n'y a pas de modération dans les IA et c'est encore plus compliqué, Isabelle Roche, parce qu'on a toujours un coup de retard, en fait.
Et j'ai envie de dire, je trépigne à mon tour, parce que effectivement, je disais à mon équipe que je pense que le prochain téléphone sonne, ce serait sur les IA génératives.
Il y en a déjà eu, mais il y en aura d'autres.
Je sais qu'il y en a déjà eu, mais par rapport au thème qu'on évoquait aujourd'hui, Je partage complètement ce que dit Madame Gel. On a vraiment une grosse problématique avec les plateformes d'IA générative et de modération et de ce que ça peut entraîner. Donc,
mais ce qui est terrible, c'est que ça veut dire qu'on a toujours un coup de retard, en fait. Et je vous jette pas la pierre, hein, parce qu'on a l'impression qu'on court derrière ces choses-là, en fait, tous, et on court surtout derrière leur modération, mais qu'à la fin, ils sont plus forts que nous, quoi.
Et c'est pour ça que il faut impérativement continuer à développer l'esprit critique et qu'on puisse garder cela présent à l'esprit. Je pense que et des émissions comme la vôtre y contribuent.
Bah écoutez, je l'espère aussi. Est-ce que ce rapport, Isabelle Roche, il sera dans les mains des instits, par exemple, dans les mains des professeurs des écoles ou des professeurs en collège, d'ailleurs?
Il sera dans les mains de tous ceux qui veulent bien s'en saisir. Il est sur le site de l'Assemblée nationale, il est disponible très facilement. Et moi, je sais que dans ma circonscription, je vais le diffuser de façon très très large, et pas uniquement aux professeurs, mais vraiment de façon très large, avec les recommandations pour que chacun puisse s'en emparer et mesure ce que nous faisons vivre à nos enfants et la responsabilité que nous devons avoir vis-à-vis d'eux.
Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, il y en aura d'autres, hein, des téléphones sonnent autour de ce sujet. On verra aussi peut-être à l'usage ce que nous dirons à la fois les parents et d'autres aussi qui essayent de restreindre l'usage de TikTok et des réseaux d'une manière générale vis-à-vis de leurs enfants et de leurs adolescents. Je vous remercie chaleureusement tous d'avoir participé à cette émission. Merci de vos nombreux appels et questions.